On a le bonheur d'accueillir notre prochaine invitée parmi notre équipe de chroniqueurs réguliers à l'émission. On aura l'occasion de l'entendre tous les mardis à 16h30, mais aujourd'hui, c'est 16h38. Excuse-nous du retard, Patrick Lagacé. Salut!
Pas de problème, Eve-Marie. Salut.
Alors, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure, on a un petit peu de retard. Je te mettrai ça en contexte, mais je veux t'entendre d'abord sur Oprah, President, pour 2020.
Ben, Oprah President, Oprah Winfrey, c'est une personnalité avantageusement connue du showbiz américain, quelqu'un de très éloquent. Son histoire personnelle est fantastique. On le sait, elle n'a pas grandi à l'ombre du showbiz. Au contraire, elle a grandi dans la pauvreté, dans des conditions difficiles. Et après ça, elle s'est élevée au firmament de la télévision américaine. Par son discours à la soirée des Golden Globes, un discours politique, social, ça a fait penser à des gens assez rapidement qu'elle ferait une bonne candidate aux élections présidentielles de 2020. Écoute, moi je ne dispute pas que ce soit une femme extraordinairement douée à la télévision, une femme avec des bonnes valeurs, mais on est déjà au milieu d'une expérience où quelqu'un a gagné la présidence sans aucune expérience politique. Et personnellement, malgré tout le côté formidable de l'histoire personnelle de Mme Winfrey, je parle en tant que, disons, une personne qui vit en Occident et dont les décisions des États-Unis peuvent l'affecter. J'aimerais ça que ce soit la dernière expérience d'une personne qui arrive à Maison-Blanche sans aucune expérience politique.
Ouais, mais la présidence, là, où c'est une vedette qu'on retrouve là, c'est pas la première fois. Ronald Reagan, ancien acteur, s'était retrouvé là aussi. Ouais. Mais il me semble que c'était moins pire. Tu comprends?
Oui, en partie, c'était moins pire pour une raison bien simple. Ce n'était pas sa première expérience politique. Ronald Reagan avait été gouverneur de l'État de la Californie, le plus grand État de l'Union. Il avait cette expérience politique-là de gestion, à tout le moins. Savoir s'entourer, savoir négocier, quand tenir son bout, etc. Mais c'est pas parce que tout le monde « consomme » entre guillemets de la politique que tout le monde peut faire de la politique. C'est un métier et ça s'apprend. Et sincèrement, je pense que ça dit quelque chose sur notre obsession collective de la notoriété puis de la célébrité. Mm-hmm. Quand t'as un mouvement qui pousse Mme Winfrey à briguer la présidence, je veux dire, c'est quand même un job important. C'est quand même un job où généralement, c'est quand on regarde les derniers présidents. George Bush avait été gouverneur du Texas, Clinton a été gouverneur de l'Arkansas. Obama était, disons, tout de suite là, en termes d'expérience de gestion dans les présidents récents, c'est celui qui avait le moins d'expérience. Il avait été législateur, hein, il était sénateur junior de l'Illinois. Mais c'est à peu près tout, Eve-Marie. Ouais. Sinon, ils ont géré généralement des États. Puis je pense que il y a plusieurs postes dans la société où on demande avec raison une certaine expérience connexe, pertinente. Mais président des États-Unis, on n'aurait pas souhaité que ce soit un ou une néophyte.
Et de toute façon, l'engagement politique ne passe pas nécessairement en étant à la tête d'un parti. Et ça, Oprah Winfrey, t'as même le constaté. Ouais. Au moment où elle avait son talk show quotidien, elle a soulevé l'Amérique, elle a réussi à toucher les cœurs, à faire changer les mentalités. Alors des fois, pas besoin d'être le président pour faire avancer les choses.
Ben en fait, c'est quoi? C'est peut-être même le contraire. Être président, c'est pas un gage de faire avancer les choses, parce que si t'es président des États-Unis, tu as généralement moins de pouvoir à l'intérieur de ton pays que le premier ministre du Canada en a à l'intérieur du sien, parce que tu peux composer avec un Congrès qui, bien souvent, n'est pas du côté de ton côté. Tu sais, Barack Obama, oublions-le pas, a composé avec un Congrès hostile. Dominé par les républicains, il a quand même voulu installer un juge libéral là, de son école de pensée politique, et le Congrès a stallé, comme on dit en bon québécois. Donc, tu peux avoir le meilleur président des États-Unis, si tu as un Congrès qui lui est hostile, ça va pas l'aider beaucoup, et c'est ce qui aide pas mal Donald Trump, malgré toutes ses gaffes présentement, c'est que le Congrès et dominé par son parti.
Ouais. Et là, on va parler de quelque chose qui se passe à Montréal, mais qui peut avoir une importante résonance ici à Québec. Parce que quand tu es à l'hôpital, qu'est-ce que tu as à faire autre que te remettre sur pied? C'est regarder la télévision. Et là, dans le nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, les gens doivent payer près de 300 $ par mois pour avoir la télévision dans leur chambre. Il y a des gens là qui passent des mois à l'hôpital. OK? Là, c'est 300 $. Et avant, c'était 100 $ quand ils étaient à l'hôpital Notre-Dame. Moi, ça me choque un peu, je vais te dire.
Ça te choque, mais j'ai envie de te dire... bienvenue dans le monde de la santé, des services sociaux au 21e siècle. Tu sais, le système est censé être public, gratuit, accessible, mais quiconque a eu à en découdre avec le système sait que la gratuité a ses maudites limites. On l'a vu dans toute la saga des frais accessoires, c'était rendu une sorte de buffet ouvert. On pouvait vous facturer toutes sortes de soins qui perdent des trous, dans le fond, dans le principe d'un système qui est gratuit. Puis là, tu vas me dire que la télévision, c'est pas un service essentiel. C'est un luxe, mais c'est un luxe jusqu'à un certain point. Parce que quand t'es hospitalisé, puis aujourd'hui, être hospitalisé à l'hôpital pendant une longue période de temps, c'est assez rare, mais quand tu le lis, c'est que c'est assez grave. Puis, écoute, t'as probablement pas ben d'autres choses à faire que de lire et de suivre la télé. Mais ce qui frappe ici, c'est à quel point tu as de l'abus. T'sais, avant, c'était 100 $ par mois, c'est rendu 300. Et je pense que c'est même plus si tu veux ajouter l'Internet.
Insistons sur le fait que c'est pas de la télé sur demande, puis tu as un tout petit moniteur, puis tu n'as pas les gros écrans.
Non, exact. Ouais. Quiconque a déjà visité quelqu'un, un proche à l'hôpital, là, c'est pas une télévision Sharp Plasma 72 pouces. Là, hein? C'est gros... C'est gros comme
une boîte à chaussures.
C'est gros comme un écran de montre, là, mais c'est pas même plus gros que disons un gros téléphone intelligent. Mais bref, tout le monde va se fermer les yeux et c'est ça qui est triste là-dedans parce que on veut financer le CHUM, on l'a fait en partenariat public-privé. Moi, j'ai hâte de voir à long terme combien ça va coûter, mais c'est sûr que les gouvernements qui ont lancé, qui ont autorisé l'idée de l'avoir en PPP. Mm-hmm. Ils seront pas là dans 15 ans quand il va falloir payer pour l'entretien de l'hôpital, par exemple. C'est tout ça. Le monde a intérêt à squeezer chaque scène pour que ça coûte le moins cher possible, mais la traduction dans le réel, c'est que ça te coûte le plus cher quand tu es un patient. Moi, je trouve ça vraiment un peu odieux. Je sais que ça touche pas grand monde, mais c'est assez symbolique, je trouve. De l'effort qu'on demande aux citoyens. Et d'une autre phrase, Ève-Marie, qu'on entend souvent quand on est dans les méandres du système de santé et des services sociaux, c'est « aller au privé ». Tu sais, on paye des taxes, on paye des impôts, mais par contre, quand tu as besoin d'un orthopédagogue pour ton enfant, il va probablement falloir que tu sortes quelques milliers de dollars de ta poche parce que si tu attends au public, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je trouve qu'il y a un symbole... Ouais. Dans toute cette saga du câble au CHUM.
Oui, et n'oublions pas non plus que pour aller visiter notre membre de la famille hospitalisée qui a la télé à 300 $, il faudra quand même payer très cher le stationnement avant pour s'y rendre. Mais ça sera une autre discussion à un autre moment donné.
Écoute, on a 300 nouveaux autobus qui s'en viennent d'ici 2020 à Montréal. Donc, pour les Montréalais, il y a des options à part le parking.
Il y aura ça. Si je suis arrivée en retard à notre rendez-vous de 16h30, Patrick, c'est que la discussion était fort animée avec le député caquiste Éric Kerr, concernant la journée contre l'islamophobie qui fait pas l'unanimité, ni dans le grand public, ni à l'Assemblée nationale. Toi, est-ce que ça t'étonne de voir que c'est pas tout le monde qui applaudit puis qui dit « Oui, 29 janvier, voilà, on va déclarer cette journée-là, journée contre l'islamophobie? »
Ça m'étonne pas parce que au Québec, on n'est pas différent que dans le reste de l'Occident. Il y a un énorme marché, un énorme public pour ce qui est, disons, on va y aller avec un terme charitable, la suspicion face aux musulmans depuis les attentats de septembre 2001. C'est tout un spectre de réactions qu'on a face à l'islam, face aux musulmans. On mélange beaucoup de choses. Ça va de la suspicion à la haine. Et moi, sincèrement, Ève-Marie, après ce qui s'est passé le 29 janvier à Québec, après cette ignominie, j'aurais pensé qu'on aurait eu un moment de lucidité collective, qu'on se serait dit « calmons-nous le pompon ». Moi, je ne fais pas de lien de cause à effet entre ce qui s'est dit dans certains milieux mm-hmm. et ce qui s'est passé le 29 janvier. Mais ce qui s'est passé le 29 janvier, c'est pousser à son extrême une sorte de suspicion irrationnelle face aux musulmans. Et ça ne veut pas dire que le Québec est islamophobe. Ça veut dire qu'il y a des islamophobes au Québec.
Mais tu vois, c'est sur ce mot-là que la CAQ veut pas se ranger. On veut pas dire islamophobie. On est prêt à parler d'intolérance.
Est-ce que ces gens-là seraient prêts à dire le mot antisémitisme?
Ben, je pense bien. J'y ai pas posé la question, mais je pense qu'il aurait dit oui.
La forme la plus vieille d'intolérance, de suspicion. Qui existe, à mon sens, c'est l'antisémitisme. Et je veux pas faire de parallèle, je veux pas dire qu'un est pire que l'autre. Les Juifs, à travers les années, à travers les siècles, sont probablement un des peuples les plus opprimés, un des groupes les plus opprimés un peu partout dans le monde. Et les musulmans n'en sont pas là. Sauf que ce que tu vois depuis une décennie et demie en Occident, c'est ce groupe-là, les musulmans, sur qui on dit des choses qui sont épouvantables. Moi, je lis les sections commentaires de nos grands médias.
Oui, nous aussi, on
lit sur les musulmans. Je trouve qu'on fait aussi beaucoup d'accommodements raisonnables avec les gens qui orbitent autour de la meute. Moi, je suis fasciné. Et quand je vois deux grands partis politiques au Québec qui veulent gouverner, ils ne sont pas capables de prononcer le mot islamophobie. Sincèrement, Ève-Marie, là, à part le fait qu'il y a des grandes clientèles électorales à ne pas rebrousser, à ne pas flatter dans le mauvais sens du poil, là, je vois vraiment pas c'est quoi le problème à dire. L'islamophobie existe, c'est mal, et on devrait profiter de ce jour où des musulmans ont été massacrés parce qu'ils étaient musulmans pour le dire haut et fort. Ça donne pas de droit à personne, ça enlève pas de droit à personne.
Ça enlève rien.
Ça fait juste nommer quelque chose qui est répréhensible.
Et ça permet d'avoir des discussions puis de faire tomber des préjugés puis de donner des connaissances à ceux qui avaient mal compris certaines choses. Patrick, j'ai déjà hâte à mardi prochain.
Moi aussi, Marie, merci.
Merci, salut.
Ciao.